Bonsoir et bienvenue dans cette émission. En raison d'un manque de financement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Acer en sigle a annoncé mardi 2 août ne plus être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins humanitaires croissants des réfugiés et des personnes déplacées internes en République démocratique du Congo. Dans un communiqué, l'agence onusienne précise que la RDC est l'une des opérations du HCR les plus sous-financées au monde. En date du 30 juin 2022, seulement 19% du montant de 225 millions de dollars prévus au budget en début d'année avait été obtenu. Selon la même source, au début de cette année, la RDC accueillait plus d'un demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile et plus de 5,6 millions de personnes déplacées internes. Pour sa part, l'UNICEF rapporte dans un communiqué que depuis le mois de mars 2022, plus de 190 000 personnes, dont la moitié est constituée des enfants, ont été forcées à quitter leur village vers le territoire de Rutshuru-Nyiragongo, au Nord Kivu. Quelle analyse faire de cette annonce du HCR? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons Madame Angèle Dikongé Atangana et les représentantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en RDC. Bonsoir Madame Angèle Dikongé Atangana.
Bonsoir.
Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru Nord Kivu. Bonsoir Monsieur Jean-Claude Mbabazé.
Bonsoir.
Gatien de Saint-Nicolas Irachan, député national élu de la ville de Bounia en Ituri au sein du regroupement politique Mouvement Social MS et membre de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir honorable Gatien de Saint-Nicolas Irachan.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kati.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous le disions au sommaire, en raison d'un manque de financement, le HCR déclare ne pas être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins humanitaires croissants des réfugiés et des personnes déplacées internes en RDC. C'est ce qu'a affirmé Dominique Hyde, directrice des relations extérieures du HCR, lors d'une conférence de presse mardi dernier au Palais des Nations à Genève. Elle révèle que la RDC est l'une des opérations du HCR les plus sous-financées au monde. En date du 30 juin 2022, seulement 19% du montant des 225 millions de dollars prévus au budget en début de l'année avait été obtenu, indique la même source. Pour la directrice des relations extérieures du HCR, cette pénurie des fonds affecte de façon significative la vie des personnes contraintes de fuir leurs milliers de vies. Pele Kipelamondo pour les détails.
Les besoins en RDC sont massifs, affirme la directrice des relations extérieures du HCR. Elle fait remarquer qu'au début de l'année, la République démocratique du Congo accueillait plus d'un demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile, plus de 5,6 millions de personnes déplacées internes. La même source indique que les combats entre l'armée congolaise et des groupes armés non étatiques dans la province du Nord Kivu ont déplacé 160 000 personnes supplémentaires depuis avril 2022. Par ailleurs, ajoute-t-elle, les HCR et ses partenaires dans la province de Ituri ont enregistré plus de 800 décès dus à des attaques à l'arme à feu et des raids à la machette contre les communautés locales qui ont poussé 20 700 personnes à fuir leur foyer. La directrice de la division des relations extérieures du HCR dit avoir constaté, lors d'une visite dans la province de Ituri entre le 25 et le 28 juillet dernier, le courage et la persévérance des femmes, des hommes et des enfants déracinés face à l'horreur, mais aussi l'impact du sous-financement. Toujours selon elle, au rythme actuel, 82% des personnes déplacées internes ne recevront pas d'aide adaptée en matière d'hébergement. De ce fait, elles seront forcées de dormir dans des églises, des écoles et des stades en plein air ou risqueront de devoir rentrer chez elles malgré les risques d'être prises pour cible par des groupes armés.
Merci à vous, Pele Kipera Mondo, Madame Angèle Dikongé Atangana. Je rappelle que vous êtes représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en RDC. Je reprends l'une de vos phrases contenues, n'est-ce pas, dans ces communiqués que vous avez publiés récemment. En raison des manques de financement, les HCR déclarent ne plus être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins humanitaires croissants des réfugiés et des personnes déplacées internes en RDC. Madame Angèle Dikongé, on sait que ce n'est pas la première fois que le HCR fait face à un problème de sous-financement. En dépit de cela, elle a toujours accompli ses missions. Mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, vous annoncez ne plus être en mesure, n'est-ce pas, de répondre à l'ensemble des besoins humanitaires?
Merci beaucoup pour votre question et pour votre attention. Bonjour et rebonjour à tous les auditeurs et tous les participants. Pour répondre à votre question, je dois dire qu'il y a des causes lointaines et des causes immédiates. Les causes lointaines, je peux dire rapidement que la RDC, malheureusement, parce que c'est un conflit qui dure depuis au moins deux décennies, en fait, ce n'est pas un conflit, c'est des crises qui durent au moins depuis deux décennies, il y a une espèce de fatigue de la part des parties prenantes. Mais récemment, et surtout depuis l'apparition de la pandémie COVID-19 en 2020, nous remarquons véritablement un sous-financement qui devient pratiquement chronique. Et la crise ukrainienne n'a pas arrangé les choses. Au moment où je vous parle, je ne peux que confirmer les dires de ma directrice aux relations externes, Mme Dominique Hyde, pour dire que sur 225 millions de dollars dont nous avions besoin au début de cette année pour faire face aux besoins des déplacés forcés, les réfugiés, et puis les déplacés internes, nous avons simplement reçu environ 42 millions, 42, 43 millions, c'est ce qui faisait qu'elle parlait de 19% au 30 juin. Ça, c'est véritablement la stricte réalité, et avec ça, cela fait que nous ne pouvons pas assurer l'éducation de plus de 84% des enfants au niveau primaire. Nous sommes seulement en mesure de supporter 16% des enfants. Et vous croyez bien savoir qu'au moins 50% de tous ceux qui sont déplacés ou réfugiés sont des enfants. Et le droit à l'éducation primaire est un droit fondamental. Et nous ne pouvons plus l'assurer. C'est non seulement l'éducation, je ne parle même pas de l'éducation secondaire, nous pouvons assurer 0%. Et ce n'est pas seulement l'éducation, c'est aussi l'abri. Que veut dire la protection de qui que ce soit si la personne est livrée à rester, demeurer sous un arbre, exposée aux intempéries, aux attaques et autres? Strictement rien. Or, avec ce niveau de financement, nous sommes en mesure d'assurer les besoins basiques en termes d'abri seulement pour 18% de la population de 500 000 réfugiés et plus de 520 000 exactement réfugiés que nous avons en RDC. Et évidemment, aujourd'hui, Mme Hyde donnait les chiffres du début de l'année, aujourd'hui nous pensons être à 6,2 millions de déplacés internes, des Congolais qui se trouvent dans leur sol et qui sont même encore moins bien lotis que les réfugiés. Qui peut accepter cela? Alors, véritablement, je lance un appel ici pour dire que vraiment, nous n'avons rien contre le fait que la communauté internationale se préoccupe de l'Ukraine. Bien au contraire, nous sommes tout à fait ravis de voir cela. Mais que l'on mette un peu de mesure. Mon agence est supposée combattre les discriminations. Alors, comment se fait-il que l'Ukraine peut avoir accès à 1,5 milliard, vous m'avez bien entendu, 1,5 milliard de financement pour ses besoins humanitaires en dollars, hein, nous parlons de dollars, pendant que mon agence n'arrive même pas à avoir, je ne sais même pas si ça fait 1% ce que nous demandons, ou 10%, vous calculerez les pourcentages vous-même. Je demande qu'il y ait quand même une mesure d'équité, une mesure de justice. les Congolais qui croupissent dans une misère abjecte, les réfugiés qui sont venus chercher asile chez eux ont tout aussi droit à un tant soit peu de considération de la part de la communauté internationale,
merci,
dont les Ukrainiens et autres.
Madame Angèle, on se rappelle que les ACER travaillent avec les ONG nationales et les ONG internationales et qu'au sommet humanitaire d'Istanbul de 2016, il avait été recommandé la relocalisation de l'assistance humanitaire en cas de crise humanitaire, c'est-à-dire qu'en période de crise comme c'est le cas actuellement, que le ACER puisse travailler uniquement avec les ONG nationales, étant donné que travailler avec les ONG internationales coûte énormément cher au ACER en termes de rémunération des agents de ces ONG internationales. Est-ce que le ACER est prêt aujourd'hui à travailler avec uniquement les ONG nationales et pour éviter de dépenser beaucoup d'argent lorsqu'il collabore avec les ONG internationales?
Merci beaucoup, monsieur, pour cette question. D'abord, je veux renommer ce dont vous parlez. Ce n'est pas de la relocalisation, c'est de la localisation. C'est-à-dire, nous devons localiser nos interventions parce que, évidemment, ça serait plus efficient en termes de coûts opérationnels. Nous sommes parfaitement d'accord et d'ailleurs, nous n'avons pas attendu le sommet auquel vous vous référez pour commencer à faire cela. Nous travaillons déjà avec un grand nombre de partenaires locaux. Simplement, la petite nuance que je veux apporter, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de décréter du jour au lendemain de travailler simplement avec les agents locaux. Faut-il encore trouver ces agents locaux-là et faut-il encore qu'ils en aient la capacité? Or, je puis vous le dire vraiment en connaissance de cause, que la RDC où nous sommes, la capacité fait malheureusement beaucoup défaut, surtout quand vous allez dans des coins reculés comme Arou ou Bounia, dont parlait ma directrice aux affaires externes. À Arou, nous sommes là-bas, nous sommes la seule agence des Nations Unies qui s'y trouve. Et je peux vous dire que quand il s'agit de trouver des bons partenaires localement, ça n'est pas toujours aisé. Ce que nous faisons justement, c'est que nous bâtissons la capacité, nous renforçons les capacités de ces agents locaux-là pour pouvoir justement les employer de manière idoine. Car force est de aussi dire qu'il ne s'agit pas simplement de prendre l'argent des bailleurs de fonds et de le mettre dans des mains qui ne sauraient pas nécessairement l'utiliser à bon escient et qui ne sauraient pas faire la reddition des comptes qui est impérative. Donc, nous nous assurons que, en travaillant avec les agents locaux, s'ils ne sont pas tout à fait aux normes de capacité qui sont exigées, nous les ramenons à ce niveau-là des exigences et nous travaillons avec eux. Pour preuve, je suis en train de signer des lettres tout de suite pour convoquer les agents locaux à deux formations que nous allons organiser ici à Kinshasa et à Goma pour leur apprendre comment suivre les questions d'éthique dans la délivrance de l'aide humanitaire.
Oui, madame, une autre question. Dans votre communiqué, vous précisez que la RDC est l'une des opérations du ACER les plus sous-financées au monde. Pourquoi la RDC est restée pendant longtemps sous-financée, même quand il y avait de l'argent? Même avant la crise en Ukraine, les ACER n'avaient jamais cessé, n'est-ce pas, de se plaindre du fait que les opérations d'assistance humanitaire étaient sous-financées. Comment vous expliquez ce phénomène-là, madame Angèle Dikongé à Tangana?
Je vous remercie. J'espère que, comme on dit en Afrique de l'Ouest, vous ne voulez pas manger votre piment dans ma bouche. Qu'à cela ne tienne, je vais quand même vous dire je vais vous donner quelques indices. Vous savez, il n'est un secret pour personne que le pays, la RDC, est un pays immensément riche, naturellement. C'est un pays qui est béni à plus d'un titre. Et véritablement, c'est malheureusement un pays aussi où l'on constate beaucoup de paradoxes. Et moi, l'Africaine que je suis, véritablement, et là ce n'est pas nécessairement la représentante du HCR qui parle, mais c'est vraiment l'Africaine, mon vœu, mon rêve est de voir que ce pays peut se lever et se tenir debout. Parce que je crois croit fondamentalement que si ce pays n'est pas debout, le pays de la RDC, alors c'est peine perdue de croire que le continent africain va pouvoir se lever et voler de ses propres ailes. Et quand je dis se lever, c'est j'entends vraiment qu'il y ait une paix durable, une stabilité durable, parce que c'est de ça qu'il est question, qu'il y ait une prospérité qui profite à tous les Congolais, à tous les niveaux, et qu'il y ait justement un respect idoine des droits humains, les droits fondamentaux, les droits de base. Et ça, pour que ça se fasse, il faut que toutes les parties prenantes veuillent bien y mettre du leur, qu'il y ait une bonne volonté politique de la part des autorités nationales, mais aussi des voisins et des moins voisins de ce pays-là. Car, véritablement, sans tout cela, ce pays n'est pas prêt de décoller et l'Afrique, dont moi-même je suis originaire, n'est pas prêt de décoller. Et probablement que le monde aussi aura des répercussions de cela, parce que la globalisation dans laquelle nous vivons commande que l'humanité entière se préoccupe de ce qui se passe dans un coin de l'humanité,
et donc,
afin que chacun puisse s'y retrouver.
Voilà, et donc vous voulez dire que ces sous-financements que la RDC a connus est dû aussi au fait que le conflit armé a pris beaucoup de temps, a duré pendant longtemps, et cela pourrait, n'est-ce pas, lasser, fatiguer les partenaires?
Tout à fait. J'allais dire parlons peu, parlons bien. Au moins, moi, je suis dans l'humanitaire depuis 1994 ou 94, comme on dit ici. C'est au moins depuis 1996 que la RDC connaît des soubresauts, des situations de crise. Il va falloir que cela cesse, parce que voyez-vous, l'appel même que je lance n'est pas tant que ça que l'on me donne de l'argent pour pouvoir m'occuper des personnes qui souffrent. En fait, mon appel est que la voix de ces 100 voix-là dit c'est trop, c'est trop. Le Congolais moyen, la population congolaise que je vois sur le terrain aspire à vivre paisiblement, à bénéficier de ses ressources. Il va falloir que nous tous, nous mettions la main à la pâte pour que cela se fasse. C'est véritablement mon rêve.
Merci.
Que le Congo trouve la paix durable et donc une prospérité et le respect des droits humains.
Merci Madame Angèle Dikongé Atangana. Nous vous gardons encore dans cette émission. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu, comment vous réagissez à cette annonce du RCR?
Oui, merci beaucoup. Donc, je voudrais d'abord présenter encore une fois ma compassion à toutes ces populations victimes de toutes ces guerres imposées et qui imposent à la population d'aller vivre dans des camps de réfugiés, dans des camps de déplacés. Sinon, pour revenir à la question, par rapport à ce communiqué du HCR, moi, je suis en train de constater trois choses. La première, c'est que je constate la méfiance du monde entier, la méfiance de la communauté internationale face aux souffrances que traverse le peuple congolais en général et en particulier tous ces réfugiés et tous ces déplacés qui sont aujourd'hui obligés de traverser un moment très difficile pendant qu'ils ont quand même droit à la vie. Deux éléments que je constate, c'est que c'est un appel auprès des autorités congolaises de s'assumer. Le monde entier montre déjà que le Congolais doit s'assumer. Il n'est pas normal qu'on soit un pays riche, comme venait de le dire Madame Angèle, et qu'on continue à souffrir jusqu'à ce point ici. C'est quand même anormal. Et que donc le monde est fatigué et on nous lance un défi, nous le Congolais, surtout le gouvernement congolais, de dire « Niet, on ne viendra plus vous aider ». Vous devez vous organiser pour non seulement prendre en charge vos déplacés et vos réfugiés, mais également, vous devez vous organiser pour sécuriser les territoires congolais pour qu'on ait plus de déplacés. Parce que, comme Mme Benoît l'a dit, c'est quand même anormal de voir tout l'argent, de voir la compassion qu'on a envers l'Ukraine et que le Congo soit vraiment rejeté jusqu'à ce point-là, alors que quand nous voyons tout ce qu'il y a dans ce monde, s'il y a la technologie qu'il y a dans ce monde, les matières premières viennent de ce pays, Et que donc, ce n'est pas de toute façon que la communauté internationale pouvait en tout cas remercier notre pays. Et en tout cas, la troisième chose, c'est qu'on a maintenant le silence aussi des Nations Unies, le silence du monde entier, face aux causes de ces déplacements, même de ces populations. Et il n'est pas normal que l'on dise qu'on va couper le financement pendant que l'on sait que les causes qui ont fait à ce que ces gens se déplacent sont encore là. Et chose drôle, on ne voit pas vraiment la volonté manifeste de la communauté internationale de s'attaquer à toutes ces causes-là qui font à ce que nos populations se réfugient et ne puissent pas vivre chez elles.
Jean-Claude Mambazé, quelle est la situation des déplacés de guerre et des réfugiés actuellement dans les territoires de Rutshuru?
Mon cher ami, je peux vous dire que le territoire de Rutshuru, en tout cas, est le premier territoire à avoir beaucoup de déplacés internes, à avoir beaucoup de camps de déplacés au nord Kivu, au point que ce communiqué-là, en tout cas, vient encore une fois raviver encore la peur et même la souffrance de la population. Les déplacés qui sont en territoire de Rutshuru vivent en tout cas dans des conditions très difficiles. Et d'ailleurs, pour le moment, depuis que la guerre de M23 a commencé, on a au-delà de 160 000 personnes qui vivent dans des conditions très difficiles, qui n'ont même pas là où se loger. Il y en a qui passent des nuits dans des églises, il y en a qui passent des nuits dans des écoles, il y en a qui sont dans des familles d'accueil. Et devant tout ce problème, la guerre continue, certainement, qu'il y a d'autres qui vont encore s'ajouter, ce que c'est déplacés qui existent encore. Il faut dire qu'il y a la présence des réfugiés dans le nord qui vous-même, dans le Rutshuru, des réfugiés dont on n'a jamais fait mention, des réfugiés rwandais qui vivent encore ici chez nous, dont on n'encadre pas. Et tout ça, ça retombe sur la population du territoire de Rutshuru, même du nord Kivu.
J'applaudis.
Et franchement, il faut vous dire que nous sommes au regret de constater que le monde, en tout cas, nous envoie à un défi et que donc c'est le moment favorable d'un éveil auprès de nos autorités afin qu'elles prennent conscience du problème du Congo, mais également faire tout son mieux pour sécuriser tout le territoire afin que l'on évite encore le déplacement des populations et que même ceux qui se sont déplacés puissent retourner chez eux dans l'urgence.
Alors maintenant que il est dit que les humanitaires ne sont plus, notamment les ACR, ne sont plus en mesure, n'est-ce pas, de prendre en charge la plupart de ces déplacés, de ces réfugiés, et vous, en tant que membre de la société civile, est-ce que vous ne craignez pas que ces personnes, ces réfugiés, ces personnes déplacées, puissent devenir, n'est-ce pas, la proie facile aux groupes armés et qui peuvent exploiter leur précarité pour les amener à adhérer à leur milice?
Bien évidemment, ça c'est vraiment une proie facile, parce que les gens, quand ils vont manquer à manger, quand ils vont être mis dans des conditions très difficiles, même s'ils le vivent encore maintenant là, et vous dites, ça va encore une fois accentuer en tout cas ce marché là des groupes armés qui vont recruter dans ces déplacés, et qui non seulement les groupes armés, mais on va encore voir la délinquance juvénile, des jeunes vont se prostituer, il y en a qui vont devenir des bandits armés parce qu'ils manquent l'assistance. Et bref, donc il faut dire que le territoire de Rutshuru, le nord qui y a plus de déplacés, va encore vivre l'insécurité grandissante. Et de l'autre côté, avec ces attaques aussi des pays voisins qui continuent encore à renvoyer les populations dans des camps de déplacés. Bref, il faut dire que nous voulons maintenant vivre le Kosovo, ici au nord Kivu, si rien n'est fait.
Merci.
Et c'est là où je dis maintenant le gouvernement congolais devait prendre ses responsabilités, parce que le gouvernement que le Congo fait est membre de toutes les organisations des Nations Unies, et que donc le Congo, c'est maintenant qu'elle avait besoin même de cette aide-là. Et le moment qu'elle a besoin de cette aide, on veut découper l'aide. Bref, on ne voit plus l'importance que le Congo reste membre de toutes ces organisations.
Merci, Jacques.
Quand il a un problème, personne ne lui vient en aide. Et alors que les matières premières qui viennent du Congo enrichissent ce monde entier, et c'est quand même un paradoxe. On ne comprend plus rien. Et cette méfiance du monde entier vis-à-vis du Congo, en tout cas, doit nous réveiller et réveiller les autorités congolaises.
Merci Jean-Claude Mbabazé. Gratien de Saint-Nicolas et Retiane, député national élu de la ville de Bounia. En Ituri, au sein du groupement politique Mouvement Social MS, membre de l'Union Sacrée de la Nation, comment vous comprenez cette annonce du ACR?
Bon, nous avons reçu cette annonce avec déception, mais il faut remarquer que les aides humanitaires à l'est de la République ont toujours été insuffisantes depuis le départ. Hormis la situation de 1996 jusqu'à 2015, la situation n'a pas changé. Parce que moi, je suivis de près toute la situation humanitaire à l'est de la RDC. Il n'y a jamais eu d'efforts suffisants pour pouvoir appuyer la population qui est en déplacement. Donc je dirais que même s'il y a l'alignement de la situation humanitaire dans l'est de la RDC, en fait, l'aide a toujours été insuffisante. Bon, là, l'Ukraine est arrivée un peu après, bien sûr. On voit qu'il y a aussi une nette différence, parce que tout simplement, il y a manque de l'intérêt au niveau des deux blocs. Donc je pense que les bailleurs de fonds n'ont pas assez d'intérêt pour l'Afrique ou peut-être pour la RDC que pour ceux qui présentent des enjeux un peu différents. Parce que quand on voit justement les chiffres qu'a même cité la représentante du DHCR, on voit justement qu'il y a des poids, des mesures dans cette situation d'aide humanitaire. Parce que quand on voit en RDC, on fait l'appel à 225 millions de dollars pour près de 6 millions de déplacés. Et au même moment, pour près de 10 millions en Ukraine, on fait l'appel de 2,5 milliards de dollars. Et on sait que déjà, l'Ukraine a reçu plus d'1,5 milliard de dollars, mais en RDT, on peine pour 40 millions. Donc, avec la situation, on peut dire qu'il y a manque d'intérêt tout simplement, mais il faut aussi dire qu'il y a les gouvernements qui ne jouent pas bien son rôle au niveau international, parce que je peux prendre les gouvernements, mais aussi les Nations Unies. Parce que d'abord, sur le terrain, il y a manque de médiatisation même du conflit. Quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est tous les journalistes du monde entier qui sont sur place en Ukraine. Mais la situation de l'Est de la RDC, on ne trouve même pas des journalistes internationaux à l'Est. Et donc, les bailleurs de fonds, parfois, ils n'est pas intéressé parce qu'ils ne comprennent pas avec précision la situation qui se passe sur le terrain. On ne sait pas relayer avec exactitude, avec précision, toutes les situations dramatiques que connaît la population. Aujourd'hui, la conséquence est qu'il y a une mortalité vraiment en hausse dans tous les camps de déplacés. Les enfants sont en train de mourir. Je ne sais plus si l'UNICEF est informé, mais je suis sûr que l'UNICEF est informé. Donc, il y a beaucoup de cas qui échappent. Et on voit, par exemple, la ville de Bounia, où beaucoup d'enfants aujourd'hui sont devenus des mendiants. Il y a un enfant qui va dans la rue à partir de 4 ans et qui va grandir. Moi, je viens de vacances parlementaires. Les enfants que je vis il y a 3 ans qui sont là, ils sont en train de grandir pratiquement dans la rue. Demain, ils vont avoir des enfants dans la rue et des enfants qui seront encore des enfants de la rue encore, pour une fois de plus. Donc, c'est une situation très dangereuse parce que ces enfants deviennent dangereux pour la société et ils peuvent agresser des gens, ils peuvent voler des gens et ça, l'autorité est en train de voir, mais il n'y a personne qui réagit.
Et vous qui revenez, honorable Irachan, vous qui revenez de vos vacances parlementaires, vous étiez à l'Ituri, et quelles sont les actions que le gouvernement congolais entreprend, n'est-ce pas, pour assister ces personnes déplacées? Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises par le gouvernement congolais?
Non, il n'y a pas d'action. On sait que plus de deux fois, le gouvernement a voulu orienter des aides humanitaires, mais c'était des aides insuffisantes, pratiquement qui n'atteignent même pas 2% des déplacés. Donc ce sont des situations en fait qui sont gérées par populisme. C'est pas vraiment une assistance digne de son nom. Donc c'est vrai, comme je le disais, il y a fuite des responsabilités du gouvernement qui ne veut pas montrer l'ampleur de la situation. Parce que là, je dirais même, il n'y a jamais eu de colloque ou bien de grandes réunions au niveau de Kinshasa ici pour qu'on voit un peu cette détresse de la population et qu'on envisage alerter le monde entier par rapport à ce drame humanitaire qui est en train de se passer. Je n'ai pas vu de colloque comme ça où on a invité tout le monde pour parler de la situation humanitaire. Donc c'est une défaillance de l'État, effectivement. Mais il y a aussi les Nations Unies qui a dans son rôle aussi de prévenir des catastrophes humanitaires, qui pouvaient aussi organiser des grandes rencontres, réunions et faire l'état de parler de la situation sur terrain. Ça aussi, ça n'existe pas. Donc, quelque part, il y a, comme je le disais, il y a des intéressements, il y a manque d'intérêt face à ces mortalités à l'Est. Et nous, nous sommes en train d'implorer ça. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça affaiblit l'autorité de l'État et ça fait en sorte qu'il n'y a plus de confiance entre les autochtones, entre la population qui est déplacée avec le gouvernement central. Ça affaiblit donc les relations.
Ces problèmes de sous-financement s'est toujours posé lorsqu'il s'agit de l'assistance humanitaire en RDC. Et on voit les députés s'époumoner au sujet des questions sécuritaires, mais on ne les attend pas à évoquer, n'est-ce pas, cette problématique de l'assistance humanitaire, alors que c'est l'une des conséquences de cette situation sécuritaire honorable et irakienne.
Non, nous, ce n'est pas seulement les questions sécuritaires qui nous attendent, mais aussi les questions humanitaires. Plusieurs fois, nous avons lancé des communiqués. De mon côté, par exemple, j'ai réalisé plusieurs documentaires vidéo montrant la situation dramatique qui se passe en Ituri et comme au Nord Kivu. Plusieurs fois, nous avons lancé des appels. Présentement, par exemple, nous venons de prendre en charge les enfants dans les camps des déplacés. Nous avons pris pour la période de 6 mois 637 enfants qui sont en train de souffrir de malnutrition sévère et aiguë, qui entraînent de paludisme, de l'anémie et suivi de plusieurs autres maladies qui sont en train de tuer les enfants dans les camps. Nous avons pu faire appel au président Moïse Katumbi qui a pu financer, mais c'est insuffisant par rapport aux besoins. On a fait aussi des appels où on a quand même appuyé la population à Goma avec un peu d'intrants, avec un peu de dérives, mais c'est insuffisant, que ce soit les HCR, que ce soit les PAM, tout ce que nous faisons sur le terrain, c'est insuffisant par rapport aux vrais besoins. Donc les politiques, pour le moment, sont dépassées parce que les faibles aides qu'on peut diriger vers ces diminuées ne sont pas suffisantes. Donc c'est un problème réel. Merci. Et nous ne pouvons que déplorer.
Merci, Madame Angèle Dikongé Atangana. Nous allons maintenant écouter les réactions, nous allons écouter les points de vue des auditeurs qui sont en train d'appeler pour enrichir, n'est-ce pas, donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Et vous allez, Madame Angèle Dikongé Atangana, réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kinshasa.
Junior Bompongo, à partir de la ville province de Kinshasa. En raison de la situation humanitaire alarmante dans le pays, les HCR, en collaboration avec le gouvernement congolais, doivent faire des choix difficiles, c'est-à-dire agir comme si c'était impossible d'échouer. Concrètement par là, nous souhaiterions que le gouvernement et les HCR arrivent à choisir des urgences en fonction des priorités, car laisser nombreuses personnes sans l'aide dont elles ont besoin, c'est aussi perpétuer les crimes et catastrophes humanitaires que la RDC continue de subir depuis plus de 20 ans de son histoire. Sinon, ne serait-ce qu'une construction de passerelles ou d'une base de morts, de misère et de confusion en droit de la guerre et des conflits armés.
Madame Angèle Dikongé Atangana, agir comme si c'était difficile d'échouer.
Je vous remercie. En fait, oui, je voudrais pouvoir justement éviter d'échouer. Et ce d'autant plus que je suis consciente du lien direct qu'il y a entre la paix ou l'absence de celle-ci et des souffrances humaines. Justement, notre charte des Nations Unies est bâtie sur 3 piliers. Il s'agit du volet des droits humains, dont fait partie l'humanitaire. Il s'agit en deuxième lieu du volet développement. Et il s'agit en troisième lieu du volet paix et sécurité. Et j'aime bien le dire que les deux premiers volets, à savoir l'humanitaire et le développement, ne seront justement pas possibles sans la paix. Et le lien inextricable entre ces trois choses-là est quasi, on ne peut pas le contourner. Et mon appel ici, c'est non seulement qu'on nous aide à gérer les symptômes, c'est-à-dire les conséquences de la non-paix ou de l'absence de paix en RDC, mais c'est surtout que le monde entier, que les parties prenantes se lèvent et se résolvent à résoudre les causes profondes qui font que la RDC est plongée dans l'instabilité depuis plus de 2 décennies aujourd'hui, car justement, si nous continuons de courir derrière les symptômes, il n'y aura jamais de répit pour la population congolaise, pour l'être congolais, et il n'y a aucune raison pour qu'il en soit ici. Donc oui, je veux bien faire des choix, mais pourquoi est-ce que je dois choisir d'assister Paul ou Pierre? Et pourquoi est-ce que le Congolais comme tel n'a pas droit à une vie paisible, une vie prospère, une vie où ses droits sont respectés? Je sais bien, c'est un peu idéaliste ce que je dis, mais c'est véritablement ce à quoi j'appelle. Et l'Africaine, je le rappelle que je suis, n'aspire qu'à cela. Et voyez-vous, nous autres au HCR, ou même dans l'humanitaire en général, nous ne tenons pas à rester dans cette espèce de misérabilisme-là. Ce vraiment à quoi nous aspirons, c'est de voir un monde meilleur où les droits des uns et des autres sont respectés. Merci. Où chacun peut vivre avec un minimum. C'est ce à quoi nous appelons et c'est ce qu'il faut en RDC parce que véritablement, c'est trop. C'est trop. Trop de souffrance pour la population, trop de déni des droits, trop de misère. Je vous remercie.
Merci Madame Angèle Dikongé. Jean-Claude Mbabazé, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Robert Mahomet de Bukavu au sud Kivu. Les sous-financements des opérations de ACR en RDC ne peut étonner outre mesure. Au fond, la communauté internationale n'a jamais été pour le sort des populations dans ce pays. Si c'était en Amérique, en Europe ou ailleurs, ce serait autre chose. Visiblement, c'est la politique de deux poids, deux mesures que cette communauté internationale a toujours cherché à appliquer quand il s'agit de la RDC ou d'un autre pays africain. Je pense que cette situation devrait interpeller la RDC et l'amener ainsi désormais à compter sur elle-même plutôt que d'attendre chaque fois les moyens de la communauté internationale. La RDC a quand même des atouts solides pour faire face à cela.
Jean-Claude Mbabazé?
Oui, je suis totalement d'avis avec ce que vient de dire notre confrère, notre compatriote congolais. C'est tout ça, c'est qui est vrai, c'est qu'il y a un temps assisté à deux points de mesure. Je voudrais rappeler encore une fois que, en tout cas, ce qui se passe au Congo ne se passe pas ailleurs. Vous vous rappellerez que la question des réfugiés, en tout cas, qui sont au Congo, et même la question des déplacés, en tout cas, semble ne pas être pris en considération. Quand vous voyez même les droits des réfugiés, par exemple, qui sont au Congo, c'est pas comme les autres réfugiés d'autres pays. Il y a des camps qui ont été bombardés ici, au Congo, et personne n'en parle. Il n'y a pas une bonne prise en charge de se déplacer là. Personne n'en parle. Et comme cela ne suffisait pas, il faut couper de l'aide. Bref, il faut dire que, en tout cas, on est maintenant face à des partenaires qui nous disent non, voilà, en tout cas, on est fatigué, on n'attendait plus rien auprès des donateurs.
Merci, Gracien de Saint-Nicolas et Rakan. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
C'est Paulin Sengangabo, depuis Kisangani, province de la Tchopo. En analysant cette situation, moi, je pense qu'il faut plutôt combattre la cause ces milliers de Congolais qui se déplacent de leurs milliers chaque année au lieu de s'intéresser aux faits. Sinon, tous ces millions de dollars ne sont qu'une aide de perdus. Aussi longtemps que les autorités vont s'en plaindre à l'est du pays, je pense que cette situation va s'amplifier davantage. Il est très important, sinon urgent, que l'État puisse imposer la paix dans cette partie du pays pour mettre fin à cette situation malheureuse que traverse la population congolaise en général, les enfants en particulier.
Gracias de Saint-Nicolas Irakan.
Oui, mais cet auditeur a pratiquement raison, parce que c'est ce que nous avons demandé toujours à Nitouri comme au Nord Kivu, même au Sud Kivu. Si jamais on nous donnait la sécurité, nous, on va retourner dans nos milieux respectifs et, bien sûr, la population va se prendre en charge. Donc, le problème, c'est de donner une paix durable à la population pour qu'elle se retrouve. Mais aussi, je tiens à souligner que, même par exemple, l'appel des HCR pour 225 millions, c'est peu d'argent, les besoins humanitaires consistent, et donc même le gouvernement ne pouvait pas manquer donner 100 millions de dollars ou même 150 millions au HCR. Donc le problème, c'est le manque de volonté politique, tout simplement, c'est des gens qui ne voudraient pas intervenir. On pouvait même laisser d'autres programmes au niveau du gouvernement et faire action dans ces domaines humanitaires parce que ce sont des vies humaines qui sont en jeu.
Merci, Madame Angèle Likong Atangana. Nous sommes à la fin de l'émission. On va commencer à conclure. Hein. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de toutes ces populations qui vivent déjà dans la précarité et qui apprennent que, en dépit de ça, les humanitaires qui les prenaient en charge ne sont plus en mesure de les prendre en charge. C'est quoi les messages que vous pouvez leur lancer? Et ça sera votre mot de la fin, Madame Angèle Likong Atangana. Allô, Madame Angèle, on va tenter de la rappeler. Jean-Claude Mbabazé, votre conclusion, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'occuper de ces personnes? Ils vont se réveiller un matin, ils vont se rendre compte qu'elles ne sont plus bénéficiaires, n'est-ce pas, de l'assistance de la part des humanitaires.
Oui, moi je crois que pour l'instant, maintenant, l'urgence, c'est au niveau du gouvernement congolais qui doit prendre sa responsabilité comme responsable de toutes ces populations qui sont en déplacement. Et que d'éviter de faire des dépenses inutiles comme ce qu'on a fait de voir, on achète des véhicules palissades qui coûtent très cher à 500 députés. Quand vous calculez, c'est plus de 25 millions de dollars. On achète des véhicules comme moi aux députés, aux sénateurs, tout ça, des dépenses inutiles, alors qu'il y a des pays humains qui sont en souffrance. On est assisté à des dépenses extra-budgétaires et des frais d'émission, des missions inutiles qui ne nous rapportent rien du tout parce qu'on est en train de le constater. Bref, en tout cas, le gouvernement doit tout faire pour encore une fois revoir son budget et orienter beaucoup plus de fonds pour aider ces déplacés qui sont en difficulté. Mais l'autre solution, c'est aussi de mettre en place un bon système de défense et de sécurité pour sécuriser toutes les zones qui sont en insécurité afin de permettre à ces déplacés de retourner chez eux. Parce que même s'il faut les aider, d'accord, mais tous ces millions-là que la CRM et la CR utilisés pour les aider, et je crois que si on les utilisait pour sécuriser les zones qui sont en insécurité, ces populations resteraient chez elles sans demander, sans prendre de l'aide. Et l'autre élément, c'est aussi voir la cause exogène de l'insécurité que nous avons. Il y a des pays qui nous causent de l'insécurité, qui font assez que nos gens se déplacent. Mais on doit quand même aussi, en tout cas, envoyer un signal fort à tous ces pays qui nous insécurisent, d'arrêter de nous insécuriser, de permettre aux populations congolaises de se développer et de vivre la sécurité comme partout ailleurs.
Merci. Madame Angèle Likong Atangana, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, je rappelle que vous êtes représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en RDC. Et je disais que nous sommes à la fin de l'émission. Hein. Votre mot de la fin, un appel, n'est-ce pas, à l'endroit de toutes ces personnes qui déjà vivent dans la précarité et qui, en plus de cela, apprennent qu'elles ne seront plus prises en charge, n'est-ce pas, par les humanitaires. Un message, n'est-ce pas, à l'endroit de ces personnes, ça sera votre mot de la fin.
Tout à fait, merci beaucoup. Croyez-moi, c'est la mort dans l'âme que je dois dire que véritablement je ne suis même plus en mesure d'assurer, de couvrir les besoins de toute cette multitude de personnes. Mais justement, si je lance cet appel, c'est pour ne pas en arriver là. Alors je veux pouvoir dire à ces personnes qui nous écoutent que de ne pas croire que nous les abandonnons. Loin s'en faudrait. Nous ne voulons pas justement les abandonner. Nous voulons tout faire pour rester à leur côté, pour faire le maximum. Mais que nous servira de rester à leur côté si nous ne pouvons pas faire la moindre chose pour eux? C'est de cela qu'il s'agit, de mobiliser encore autant que faire se peut la communauté internationale, la communauté nationale aussi, pour dire qu'il y a dans l'Est, il y a sur le terrain, beaucoup de souffrance. J'étais à Ituri avec Madame Hyde. J'ai vu la misère qui marchait. Et je peux vous dire que ça n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je dois lancer cet appel. Et je dis, faisons le nécessaire pour que chaque Congolais ou chaque personne qui cherche refuge au Congo puisse manger à sa faim, puisse avoir un toit sur sa tête, puisse aller à l'école, puisse sortir de la rue, ne pas être des générations de la rue comme le décrivait son honorable. Ce n'est pas ce que nous voulons pour ce Congo, pour ce grand pays que nous respectons tant, pour cette Afrique, ce continent qui est indispensable pour le monde, disons-le. Et véritablement, le monde entier se porterait encore mieux si le Congo allait bien. Alors, faisons en sorte que cela se passe. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Angèle Dikongé à Tangana. Monsieur Gratien Dessé-Nicolas Irachan, qu'est-ce que vous envisagerez de faire au sein du Parlement? Quel pourrait être votre apport au sein du Parlement? Qu'est-ce que vous comptez initier comme démarche au sein du Parlement pour que ces personnes, ces milliers de déplacés, ces milliers de réfugiés ne puissent pas être abandonnés à leur triste sort, vous, député national? Ça sera votre mot de la fin.
Oui, c'est malheureusement une déception parce que moi j'ai initié beaucoup de correspondances, beaucoup de moyens à l'Assemblée nationale pour qu'on voit un peu cette situation humanitaire, mais c'est resté sans suite. On connaît chez nous comment ça se passe. Donc moi j'appelle tout simplement la responsabilité de l'Assemblée nationale, du gouvernement pour restaurer la paix durable pour que la population rentre et vit d'une façon calme dans leurs milieux respectifs. Mais ce qui est vrai aussi, on doit beaucoup travailler pour faire des plaidoyers, mais aussi médiatiser ce qui se passe sur place pour que le monde entier sache qu'il y a un drame humanitaire qui pointe à l'horizon. Mais j'encourage aussi les organisations humanitaires, l'OHCR, mais aussi les PAM et d'autres organisations à pouvoir travailler, à continuer de combattre la réalité, parce que c'est pas facile. Mais nous devons être mobilisés effectivement. C'est notre responsabilité en tant que haute autorité du pays pour pouvoir donner cette solution au peuple congolais.
Merci beaucoup. Merci à Madame Angèle Dikongé à Tangana, à Monsieur Jean-Claude Mambazé, au député Gratien Dessé-Nicolas Irachan d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Jean-Claude Etienne qui était à la technique et aussi à Donna Madimba qui l'a réalisé. À la présentation Guy Maté sous la supervision de Martès Boujangwe. Merci une fois de plus et bonne suite au programme sur Radio Capi.